vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire. En ce mois de mars 2023, c'est un peu une coutume, voilà. Je vous parlerai de poésie, du printemps des poètes, voilà, de poésie, de romance américaine et française, et d'aventure avec la traversée solitaire de l'Alaska en canoë, oui, un exploit dont il est revenu vivant, voilà. Et je commence donc par la poésie. C'est le printemps des poètes en mars avec André Velter, un grand poète à mon cœur, et son livre « Trafiqué dans l'infini » qui vient d'être édité par Gallimard. Entre deux voyages au long cours, il compose lui-même des recueils de poésie, mais ce livre est aussi une anthologie faite à partir de rencontres poétiques essentielles pour lui, comme pour nous, comme celle de Stéphane Mallarmé, qui affirme « J'ai fait une assez longue descente au néant pour pouvoir parler avec certitude, il n'y a que la beauté, et elle n'a qu'une expression parfaite, la poésie. Tout le reste est mensonge. » C'est vrai aussi que dans cette émission, je vais parler aussi de mensonges et comment s'en détourner. C'est pas évident. André Velter donc aime tutoyer la poésie et se mettre à son écoute. Il est poète même en prose, comme le recommande Charles Baudelaire. J'entends, dit-il, cette plénitude sonore qui vient de l'espace-temps, comme si terre et ciel n'étaient que la reprise des thèmes d'une symphonie exponentielle. Je t'écoute toujours au-delà, j'entends ces lointains qui font chorus en moi pour un sursaut d'ave renaissant et qui donnent l'élégance d'improviser ce qui s'est écrit à mesure sur le givre et le vent. Quand je disperse les mots du poème, il est un chant qui demeure. Je le veux sans retour, même s'il rameute mes ailleurs, mes viatiques, mes effractions. Tous ces vocables précaires qui arpentent les déserts où la soif se déchire. Je ne peux me passer de ce qui ne passe pas. Je prends note à note les messages éperdus d'un violoncelle qui joue à fendre l'âme jusqu'aux limites extrêmes où la musique met au grand jour les forces de la nuit. Avant le dernier souffle, avant le noir silence, je l'écoute. Tu es la seule promesse qui tienne, la seule éternellement présente et réelle, qui dispense des prophéties, des mirages et des songes. Être ce pèlerin qui part sur une barque de terre, épouser le mouvement des flots, gagner le corps des galaxies, la joie stellaire du sans-repos, la joie sans fin de l'éphémère, et s'abolir dans un sourire. L'altitude est pour moi l'autre nom de l'amour. Avec à l'infini l'aube de la vraie vie. Voilà, une merveille que j'abrège tant il y a à dire de choses poétiques dans ce livre. Et surtout, je l'ai dit au départ, c'est une anthologie. Il faut le lire pour y découvrir des grands poètes, femmes et hommes, qui ont défrayé la chronique, mais en bien, qui plaisent à André Velter et qui nous plaisent aussi à nous quand on aime la poésie, la vraie poésie. Voilà. Le deuxième livre est un recueil de poésie qui vient de remporter un prix littéraire local, plus modeste que Trafiqué dans l'infini de André Velter, mais de plein de qualités. C'est celui de Cécile Rulon, Plein été, le titre Plein été, prix de la poésie Histoire et mémoire 2022, paru aux éditions des Deux Rues, à 10 euros, il ne faut surtout pas s'en priver. Comme un chardon domestiqué, bleu capitule et bractée arrachée, involucre déchiré et dispersé au vent de Méditerranée, j'ai senti sous la pluie de mai toutes vos anciennes vies. Plein été, de Cécile Rulon, comme une valise offerte à ceux qui ont quitté de force l'Algérie pour revenir en France, à ceux qui n'ont pas voulu ou pas pu parler, à ceux qui perdent la mémoire avant l'oubli, c'est à commander donc à https://www.editions2rues2@.com. Voilà. Comme ça, vous pourrez le découvrir. Le troisième livre est un roman sensible et lumineux qui m'a surpris aussi par sa poésie, même si pour le personnage central, il y a une quête douloureuse de ses origines. C'est intitulé « Le souffle des hommes ». De Philippe Krajac, paru aux éditions Belfond, un grand roman paru aux éditions Belfond. Nous sommes au départ au printemps 1999. La fureur des bombes démolit la Serbie. Au milieu du chaos, deux jeunes amoureux, Ferial et Dani, hommes et femmes, Ferial et Dani, filent à Zastava vers l'ouest pour échapper à la folie des hommes. Bien que français, Ferial a des origines serbes. Il ne pensait pas y venir au moment de la guerre. Oui, Ferial cherche ses origines avec une vitalité inouïe. Lui qui est serbe depuis si peu, parce qu'il l'a découvert si peu de temps, il était très bien d'être français, de croire qu'il l'était, car il le découvre, car il a été abandonné par ses parents et élevé en France, où on vit en paix, par des familles d'accueil. Donc lorsqu'il découvre qu'il a des origines serbes, tous les deux, ils entreprennent ce voyage en Serbie, mais ils vont rencontrer la guerre. La guerre, qui est un chaos, comment aller de l'avant malgré le vertige de l'éternel réfugié, étranger à sa famille et à son propre pays ? Même s'il est parvenu à être un homme de théâtre, un très bon comédien, il y a ces blessures internes d'où il vient. Malheureusement, dans ce chaos, Danny, qui va être enfoui un peu sous les décombres, on va la dégager, mais elle va recevoir un éclat à la tête et que l'on ne pourra pas enlever, qui va, quelque temps après, lorsqu'ils sont revenus, se déplacer et qui va entraîner sa mort. Alors c'est vrai que Ferial est tout triste. « Danny, mon amour, dit-il, pardonne-moi de ne pas avoir entendu le lourd sabot des cavaliers. Ils étaient là, en route, depuis quelque temps. De cela, je suis sûr, Danny, mais je n'ai rien entendu. Pardonne-moi, ils sont arrivés si vite et ils t'ont emporté. Oui. » En deuxième partie de ce roman, on va découvrir un autre aspect de ce personnage de Ferial avec un déclin. C'est une autre vie avec une autre femme, mais qui est le prolongement de cette première vie, avec Anna et la mise au monde de son fils. Ça, c'est un miracle. Ethan, oui, mon fils, je suis ton protecteur et je ferai en sorte que mon passé d'orphelin, mon passé de misère, ce passé qui a failli me faire déserter mon poste de père, ne pèse jamais sur tes épaules. Toi qui vis à présent sous notre toit, toi qui es l'heureux dénouement que je n'attendais pas. Voilà. Donc, se pose la question, lui qui n'a pas eu ses parents ou qui a eu des parents quand même d'accueil, certains ont vraiment été très bien, surtout une femme qu'il a vraiment considérée comme son enfant et qui lui a donné le sourire. Donc, il va être père et un très, très beau garçon, Ethan, bébé, qui va grandir et qui fait toute sa joie. Mais il se rend bien compte que jouer la comédie, même bien, cela ne suffit pas pour nourrir une famille. Alors, il lui faut trouver un vrai boulot régulier. Et ce sera le déclin, car il était fait pour être comédien, acteur. Et il fera plein de petits boulots. Tout ceci est raconté avec vivacité, et il pourra à la fin rebondir, retrouver vraiment sa place. Oui, comment un fils longtemps privé de parents peut-il devenir un père aimant ? Seul le souffle de vie, un optimiste féroce et l'amour, toujours, guideront Ferial à la portée des étoiles. Voilà, un très beau roman de Philippe Krajac, un roman sincère et fougueux qui vous emportera, vous aussi, chers auditeurs. Et on écoute une belle musique de Beethoven, le triple concerto de l'Argo.
Thank you.
Voilà un superbe concerto pour piano, violon et violoncelle de Ludwig van Beethoven. Et c'est le Largo qu'on a entendu avec Anne Gassinel au violoncelle, Nicolas Angelisch au piano et Gilles Shaham au violon. Voilà. C'était superbe. Et ça va très bien avec l'ambiance de cette émission. J'aborde avec vous un genre littéraire que je découvre avec grand plaisir grâce à un éditeur, Hugo News Romance. La romance avec des autrices tout à fait remarquables et remarquées par la communauté, justement, News Romance. Ce qui peut représenter au moins 150 000 exemplaires vendus en France pour l'une de ces autrices, que je ne présente pas cette fois-ci, je pourrais le faire, mais elle avait écrit deux romans et c'est une reprise, suite au succès justement du premier roman. C'est donc un phénomène littéraire, car c'est vraiment très bien écrit, très, très bien construit. Voilà. Et le premier de ces romans, Palissade Park, c'est le titre de ce roman, le tome 1, parce qu'il y aura trois tomes, le tome 1, Yellow Flag, c'est d'une américaine, c'est de Maloria Cassis. Maloria Cassis, un nom à retenir, dans lequel elle nous entraîne dans une nouvelle résidence appelée Palissade Park, qui se compose de trois bâtiments, de 17 appartements et des voisins hauts en couleur qui emménagent dans le bâtiment. L'un s'appelle Grant, l'autre le bâtiment McQueen, et le troisième bâtiment, Aster. C'est construit comme une mosaïque, et c'est non loin de la jetée de Santa Monica, donc on redécouvre cette jetée de Santa Monica, avec la plage, bien sûr, et l'océan. Vraiment, on s'y croit quand on va sur la plage. Et dans un balai de carton, mystérieuse, surprenante, prometteuse, les rencontres s'enchaînent. Et c'est là que, peu à peu, on apprend à connaître les uns et les autres. Et si tout semble idyllique sous le soleil de Los Angeles, puisque on est à Los Angeles, chacun cache un secret à ses voisins. C'est le but de cette littérature, d'apprendre à découvrir ses secrets ou à se relever de certaines blessures. Et ils ont un métier, les uns et les autres, et puis certains ont des enfants, donc on les voit grandir. Dans ce premier volume, Maloria Cassis met l'accent sur une rencontre, celle de Lee Fall, elle s'appelle comme ça, Lee, son prénom, Lee Fall, et de Matthews Troxler, en plus des autres habitants qui sont bien présents et qui interviennent dans le roman. Lee Fall espère débuter une nouvelle vie en Californie. Elle vient de Seattle, enfin d'une autre région. Elle compte sur la ville qui l'a vue naître, mais elle a été abandonnée, mais récupérée par des gens très très bien, qui l'ont vraiment aimée et qu'elle aime vraiment beaucoup, pour faire oublier son ancienne vie. Voilà, même donc ses parents adoptifs, elle les aime beaucoup. Elle va correspondre avec eux. Mais c'est son ex, voilà, qui est devenu détestable au possible, qui va la traumatiser. Donc Elle a, parce qu'il a, il a trahi, il est sorti avec d'autres femmes, et elle doit fuir, le fuir, et pour se refaire une santé, et pour ça, elle décide d'aller jusqu'en Californie. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontres en vogue, puisqu'elle ne connaît personne. Et avant de rencontrer deux jeunes femmes, une fleuriste et une journaliste qui deviendront des grandes amies, qui la soutiendront, qu'elle retrouvera à certains moments. Voilà. Attention, car dans ces sites de rencontres, il y a parfois des mensonges ou des tromperies. Si on veut se mettre en valeur, on peut cacher certaines choses. Pour elle, le mot fort, pour Li Fal, le mot fort, c'est la fidélité, bien sûr, puisque elle ne s'entendait plus du tout avec son ex-mari qui l'a trompée. Donc, c'est de la fidélité, critère numéro un. Et Matthew Strockler, qu'elle rencontre, lui n'a jamais eu envie de s'engager en amour. Son cœur, il le réserve à l'océan, qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est un sauveteur sur la plage. Voilà. Un homme baraqué, bien fait, voilà. Et puis toujours plutôt en slip de bain, puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. C'est là aussi. Voilà, il est aussi, il a son cœur à sa grand-mère qu'il a élevée et à qui il voue un amour sans limite, ce qui prouve qu'il a quand même un cœur. Voilà. Et s'il navigue sur les sites de rencontres, c'est uniquement pour parfaire son quotidien de femme libre et de profiter de la vie. Mais lorsque Lee et Matthews font connaissance, que cela soit en vrai ou en se rencontrant à Palisade Park, puisqu'ils habitent dans la même résidence, peut-être pas au même étage, mais dans la même résidence, ou en ligne, puisque quelque chose les pousse irrémédiablement l'un vers l'autre, alors parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes, puisque Lee recherche une liaison solide, un amour solide, avec la fidélité et non pas quelqu'un qui va d'une femme à l'autre. Voilà, c'est un très très beau travail qui est fait, avec un travail de vérité et d'amour, d'aventure aussi, sur la plage et dans la boutique, parce que Lee, elle doit trouver du travail, elle doit gagner sa vie. Et elle va monter, comme elle sait faire des massages, mais des massages vrais, des massages, c'est pas... Eh bien, elle va monter une boutique et elle aura besoin justement d'une journaliste, d'une amie journaliste, j'en parlerai après, parce que pour faire... elle va aussi avoir l'aide de Matthews Troxler, parce que lui, il peut aussi mettre des indications sur la boutique, sur le massage, tout ça, pour que les gens puissent la découvrir, parce que il y a une autre personne qui est une rivale et qui va voilà, imaginer quelque chose de très désagréable pour lui, puisqu'elle va perdre en partie sa clientèle, mais elle va la retrouver par la suite. Donc, une série en trois volumes, trois tomes addictifs à souhait, amour, amitié et mystère sont bien au programme pour tous les habitants de Palisade Park. Dans le tome 2, qui vient tout juste de paraître, Red Light, l'accent est mis sur June Campbell. Je vous ai parlé d'une journaliste, justement. C'est elle qui va devenir l'amie de Lee. Passionnée par son travail de journaliste. Et elle va rencontrer Derek Harmon, un pompier qui a été blessé au cours d'une mission. Et ils doivent collaborer. Même si June et Derek gardent précieusement certains aspects de leur vie secrets, accepteront-ils de se dévoiler l'un à l'autre pour se laisser une chance de s'aimer vraiment, corps et âme? C'est toute la question de ce roman, là, de ce deuxième tome. Mais ça permet aussi, on a le plaisir sincère, de tous les retrouver, avec eux deux en particulier, mais aussi Lee et puis les autres personnages que l'on a pu découvrir dans le premier volume. On les retrouve avec beaucoup de plaisir. Leur caractère propre et différent. Voilà pour ce deuxième, pour ce troisième roman, La Palissade Park, Palissade Park, paru chez Hugo, donc Hugo Roman Romance. Donc là, il y a ça, deux volumes vraiment très très bien construits, comme je vous l'ai dit, comme une mosaïque. Tout le monde, on les repère et puis on les retrouve avec grand plaisir. Par Maloria Cassis. C'est une vraie littérature. Et j'aborde un autre livre, toujours en romance, mais Onlay Lee, en anglais, mais c'est de Jeanne Pierce. Jeanne Pierce, qui est une Française. Encore de la romance, mais avec Jeanne Pierce, qui est française et qui suit les Américaines en déroulant son nouveau roman, premier volume, à Los Angeles. Donc on retrouve Los Angeles, mais avec un regard un peu différent des précédents romans que j'ai présentés. C'est ça qui est très bien. C'est une grande ville, Los Angeles, alors on a de quoi faire. Très grande lectrice de romance, Jeanne Pierce s'est lancée dans l'écriture il y a une dizaine d'années pour ne plus pouvoir s'arrêter. Donner vie à des personnages affirmés et passionnés, faire voyager à travers ses écrits, exprimer ses émotions sans autant de motivation et plus que tout partager avec les lecteurs et les lectrices des histoires qui leur parleront, voilà. Et justement, ce nouveau roman, I Only Lie, repose sur un sujet d'actualité brûlante, avec l'Alpha, l'affaire Palmade, mais qui est un exemple, il y en aurait bien d'autres qu'on aurait dû prendre en compte. Et l'addiction. Maxine, dans ce nouveau roman de Jeanne Pierce, Maxine est une étudiante en histoire de l'art. C'est vraiment pour elle une passion. Et elle a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte après un traumatisme pour se reconstruire. Mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis. Je parlais de ses deux amis, hein. L'une est fleuriste et l'autre est journaliste. Elles sont ses amis qui vont devenir ses amis les plus proches. Mais il y a aussi ses cours. Elle travaille vraiment, elle est brillante. Elle sera même diplômée l'université de Los Angeles, et surtout grâce aux Narcotiques Anonymes, une association importante où se retrouvent des âmes perdues qui se sont toutes tournées vers l'alcoolisme et les drogues pour s'en sortir, mais qui sont devenues choses dangereuses des addictions, l'alcool et le drogue. Donc on en parle et il y a des accidents et puis l'alcoolisme, c'est pas nouveau. Dans d'autres romans américains que j'ai présentés, il y avait quand même l'alcoolisme. On parle peut-être pas toujours des drogues, mais les drogues prennent la relève parce que on ne sait pas, on ne veut pas les interdire, ou on ne peut pas les interdire, c'est trop difficile, c'est chez chacun. Alors c'est au NA, donc au Narcotique Anonyme, qu'elle rencontre Garrett, qui est encore plus secret qu'elle, promis à un brillant avenir au sein de son groupe de rock. Et ça, je trouve qu'avec Ian Pierce, c'est très intéressant d'avoir formé, d'avoir utilisé un groupe de rock qui existe réellement, parce que je vais vous dire des chansons tout à l'heure, compositeur et chanteur, il y en a un qui est donc justement... donc Garrett, mais qui a un nom aussi, ça c'est son prénom, Garrett, qui est encore plus secret qu'elle, et qui est promis un brillant avenir au sein de son groupe de rock. Il est compositeur et chanteur, mais il sait aussi jouer du piano, de la guitare, d'autres instruments. La drogue, l'alcool et les filles, suite à la mort brutale de son frère, sont devenues des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière prometteuse et retrouver ses trois amis musiciens. Peu importe qu'il ait une bonne raison d'avoir plongé une première fois, au fur et à mesure des séances bien encadrées, et c'est important parce que elles doivent être bien encadrées, ces séances, comme les séances alcooliques d'alcoolie, des séances bien encadrées. Maxine et Garrett vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre, apprendre à jouer de la guitare pour Maxine, qui sait chanter, qui a une très très belle voix, mais qui ne sait pas jouer de la guitare, ou visiter les musées pour Garrett, qui n'y a jamais été et qui va, grâce à Maxine, qui va découvrir l'art qu'on peut voir dans les musées. Leur relation amicale est cependant dangereuse et surtout interdite, car on ne remplace pas une addiction par une autre. Attention, ils peuvent venir dépendants l'un de l'autre. On peut même se demander comment ces gens malheureux peuvent être soignés avec ces narcotiques anonymes s'ils restent dans leur solitude et leur tourment. Bon, ça c'est une réflexion que je fais. Ces quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux. Voilà. Mais les aideront-ils à faire face et à se dire la vérité sans mensonge, ou les entraîneront-ils vers la chute? Alors j'ai prévu de faire des lectures de ce roman, surtout à la fin, parce que je l'ai dit que c'était un groupe de chanteurs, donc ils font vraiment de la musique. Et je l'ai commencé par le chapitre 42, où l'on retrouve les musiciens, Aiden d'Andrea, Ryan d'Andrea, qui est son frère, Garrett, Brett Wood, c'est le Garrett, le personnage central de ce roman, et Olivier Abbott, un très très bon musicien, fin guitariste. Alors ensemble, ils ont formé un ensemble musical en 2023, et voilà ce que, c'est la traduction, voilà ce que dit les paroles de cette chanson. Je pensais tout connaître parce qu'il a trouvé de l'inspiration grâce à Maxine. Je pensais tout connaître jusqu'à ce que je te rencontre. Toutes mes certitudes se sont envolées. Le moment où je t'ai rencontré, je n'arrête pas de penser à toi depuis que je t'ai rencontré. Tu es partout, dans mes pensées, dans ma tête, comme si je t'avais mis dans la peau, dans mon sang, dans mon cœur, tu es partout. À cause de toi, je veux croire que je ne suis pas brisé, si brisé. À cause de toi, je veux croire que j'en vaux la peine. À cause de toi, je veux croire que je peux être aimé. Tu es partout dans mes pensées, dans ma tête, comme si je t'avais dans la peau, dans mon sang, dans mon cœur, tu es partout. Quand je t'ai rencontré, j'étais quelqu'un d'autre à cause de toi. Je suis devenu quelqu'un d'autre pour toi. Tu es partout dans mes pensées, dans ma tête, comme si je t'avais dans la peau, dans mon sang, dans mon cœur. Tu es partout. Donc, il y a peut-être bien de l'amour, mais aussi de l'addiction. Hein, attention. Je suis jaloux de la pluie qui coule sur ta peau. Elle est encore plus proche que mes mains ne l'ont jamais été. Je suis jaloux de la pluie, je suis jaloux du vent qu'il s'invente sous tes vêtements. Il est encore plus proche de ton ombre. Oh, je suis du vent parce que voilà, il faut se méfier. Hein. Attention entre l'amour et la réalité. Et l'addiction. Voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Alors il y a le, je voulais terminer par le chapitre 30, parce que on parle de mensonge. J'ai parlé tout à l'heure de mensonge. Faisons juste semblant un instant que tout ira bien. Mettons le passé de côté pour nous concentrer sur l'instant présent. Dis-moi des mensonges pour oublier toute ma peine. Dis-moi des mensonges pour me faire croire que je vais bien. Dis-moi des mensonges pour penser mes plaies. Dis-moi des mensonges, dis-moi des mensonges, seulement des mensonges. Faisons juste semblant un instant que rien de tout ceci n'est arrivé. Laissons les mauvais souvenirs loin derrière pour nous concentrer sur l'instant présent. Dis-moi des mensonges pour oublier toute ma peine. Dis-moi des mensonges pour me faire croire que je vais bien. Dis-moi des mensonges pour panser mes plaies. Dis-moi des mensonges, seulement des mensonges. Voilà pourquoi ce livre est très très bien réalisé, très bien écrit. Il va vous emballer aussi. Jeanne Pierce, I Only Lee, Maxine, va disparaître à la fin du volume, subitement enfermé, semble-t-il, dans les mensonges, dans ses mensonges, dans son amour, addiction. Il avait tendance un petit peu à l'enfermer. Voilà pourquoi. Mais il y aura un deuxième volume, donc j'en parlerai une autre fois. Car il n'est pas encore paru, où on retrouvera Maxine et Gareth. Alors, vous pouvez parler aussi d'aventures, de grandes aventures, et peut-être encore d'un autre roman, un septième roman. Oui, je voulais parler aussi d'aventures, car c'est même un exploit hors du commun. La dernière frontière de Volodia Petropavlovski, édité par Le Mot et le Reste, que je remercie parce qu'ils ont toujours l'art de retrouver des textes, des récits extraordinaires. Un récit qui m'exalte et comme je les aime. Né en 1989 sur les bords de Loire, en Saône-et-Loire, il est bien français, ce Volodia Petropavlovski entretient un lien privilégié avec les cours d'eau. Géographe puis journaliste, il arpente le monde, alternant aventures personnelles et reportages. À 21 ans, il part pour une traversée solitaire de l'Alaska en canoë. Il suit le cours de la Tanana, qui est une rivière, depuis Tok, qui est une rivière qui va se jeter dans un fleuve, le Yukon, qui lui ira jusqu'à la mer de Béring, à 2000 kilomètres de son point de départ. C'est effarant. Et sur cet itinéraire peu cartographié, les bivouacs ne sont jamais sûrs qu'ils soient en lisière de forêt, de grandes forêts, à la merci des ours. Oui, oui, il faut se méfier, car eux, avec leur famille, viennent ou chez les habitants, adeptes de beuveries intenses sous le ciel flamboyant des jours polaires. Des jours polaires qui durent très longtemps. Il y a aussi les remous dangereux et des bancs de sable, il faut s'en méfier. Heureusement, il a pris ce Volodya Petropavlovski, avait déjà fait un voyage avec un autre ami en Suède, là il refait tout seul, mais il a pris des contacts avant de s'engager, avant de partir. Et il a bien fait, car prendre des contacts avec des natifs va lui permettre de découvrir leur culture et un territoire fascinant. Et leur amitié avec Patrick à la cabane, le lieu, la cabane, après son naufrage. Oui, oui, il a failli y rester dès le départ. Quand on sait que les gens disparaissent en Alaska, beaucoup ne reviennent jamais à la maison, environ 1200 depuis les années 1960 ont disparu. À cause des forêts infinies, de la nuit polaire, du blizzard et des prédateurs, j'ai parlé des ours, oui, il faut vraiment les craindre, il peut y avoir d'autres prédateurs. Il a pris des risques, mais merci à ceux qui, généreux, ont pu le réconforter et lui permettre d'aller jusqu'au bout, avec une grande part de chance, il faut bien le dire, jusqu'à la dernière frontière, c'est-à-dire qui se trouve à Emonak, sur la mer de Béring. Ainsi, merci à Bob, Ruby, Mike et Tania, April et Igao, qui ont pu le soutenir comme il le fallait et au moment où il le fallait. Aucun vent ne me porte. Le Yukon m'apprend la lenteur, dit-il, ce Volodya Petropavlovski. Son rectiligne. Je reprends. Aucun vent ne me porte. Le Yukon m'apprend la lenteur. Son tracé rectiligne n'en finit pas. Pour tromper l'ennui, je concentre mon observation sur les mouvements de la pagaie. Elle touche la masse liquide en créant de petits tourbillons qui emportent les moucherons tombés à l'eau. Il y a aussi les moustiques qui ont tendance à lui rentrer même dans les yeux, dans la bouche. Il faut s'en méfier. L'Alaska n'est plus à mes yeux une immensité de forêts et de cours d'eau. Chaque méandre est unique. Et chaque maison renferme des existences singulières qu'il a appris à découvrir. Ici se cache sa véritable beauté. Là où le sauvage n'est pas un vain mot, là où les hommes vivent malgré tout, là est la dernière frontière. C'est le titre de ce superbe récit. La dernière frontière, qui est un lieu, qui est ce lieu justement au bout de cet Alaska. Donc, un très beau récit que je vous laisse à votre tour lire et découvrir ce récit unique. Et s'il me reste, oui, il me reste quelques minutes, je peux vous parler aussi d'un livre intitulé « Les mauvaises épouses ». C'est de Zoé Brisby, une Française, qui vient de paraître, tout juste paraître, chez Albin Michel. Une diffusion, Gilles Paris, que je remercie parce que j'ai pris aussi là beaucoup de plaisir. Avec cette nouvelle histoire dont l'écriture est incisive, elle veut défendre des causes fortes telles que l'émancipation féminine ou la lutte face aux violences faites aux femmes. Et justement, dans ce nouveau roman, « Les mauvaises épouses », on parle de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, de ses causes, de l'une et de l'autre. Et l'auteur Zoé Brisby, qui avait écrit des choses un peu plus légères, là, elle approfondit ces grandes questions dont on parle et dont on doit parler. On a vraiment l'impression qu'elle a rencontré les deux héroïnes principales, Sumer et Charlie. Soi-disant des femmes parfaites, mais malheureuses, car considérées comme des domestiques par leur mari, qui sont des militaires engagés dans une caserne placée au Nevada, là où le climat est terrible, le désert, le climat est terrible, la chaleur. Nous sommes en 1952 et les militaires américains font des recherches atomiques, faire sauter des bombes dans le désert pour maîtriser l'atome. Et donc ces militaires engagés ont besoin d'avoir des femmes parfaites qui entretiennent leur maison, leur linge, tout, et puis qui savent recevoir quand ils se reçoivent chez les uns ou chez les autres, qui savent aller aussi dans les réceptions et puis être bien habillées, galantes, propres, irréprochables. Eh bien, elles s'appellent Sumer et Charlie, l'une et l'autre, et elles vont se retrouver, elles vont créer des liens entre les deux, alors qu'elles sont très différentes au départ, elles sont simplement voisines, et elles vont, Sumer comprend, entend bien des bruits, des cris, enfin des bruits, surtout des bruits. Et puis, quand elle voit Charlie, elle découvre qu'elle a des bleus, qu'elle a des marques sur le visage. Donc, son mari, qui semble très, très bien, Harry, très, très beau, très fort, voilà, galant même, avec les autres, eh bien, il frappe sa femme parce qu'il est alcoolique. On retrouve encore, comme dans les autres, une addiction, l'alcoolisme, ici. Ce qui fait d'ailleurs qu'il a été déplacé, qu'il est maintenant dans cette caserne en plein désert du Nevada. Ce qui ne lui plaît pas tout à fait. Et donc, il s'en prend à sa femme, à Charlie. Et elle, Sumer, eh bien, elle est... embrigadée un peu par son mari, donc elle manque de liberté, de mouvement. Elle va s'acheter un pantalon, quelque chose, mais normalement, elle ne devrait pas ou elle devrait demander à son mari l'autorisation de le faire. Voilà pourquoi je voulais donc vous parler de ce roman fort, « Les mauvaises épouses » de Zoé Brisby, qui vient de paraître chez Albin Michel et qui rejoint un petit peu les autres livres que j'ai présentés comme la romance, parce que dans ces romans sympathiques, je dirais, Palisade Park, ou On Lee Lee, il y a quand même une vérité cachée, mais qui peu à peu ressort avec des blessures des uns ou des autres, parce que la vie blesse, soit au moment de l'enfance, l'éducation, soit dans des rencontres qui sont totalement déstabilisantes, blessantes. Et puis donc il faut repartir, il faut quand même, parce que quand on est jeune, se reconstruire avec des personnes vraies, des personnes qui vont vraiment vous aimer. Donc voilà. Après, donc, il y a eu Le souffle des hommes de Philippe Krajac, roman Belfond, là aussi, fort, avec une vivacité étonnante, où on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, La paternité, voilà, Le sens de la paternité. Et puis, le dernier, que je n'ai fait qu'évoquer, mais on pourrait s'y attarder un petit peu, Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, qui vient de paraître chez Albin Michel. Et, eh bien, on peut arrêter peut-être l'émission, si Jimmy est d'accord. Voilà, oui, il est d'accord, il a trouvé le sourire. Voilà, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Voilà. Merci de votre écoute. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.